7h24 sur France Culture. On commence la revue de presse de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucas.
Avec ce discours très attendu de Donald Trump sur l'engagement de son pays en Afghanistan.
Oui, s'il n'était pas coutumier du fait, nul doute que le discours cette nuit du président américain sur sa stratégie pour l'Afghanistan aurait été qualifié de déroutant, pour ne pas dire renversant. Mais une fois de plus, Donald Trump aura donc fait montre de son caractère imprévisible. Lui qui, depuis son investiture, semble tout faire pour couper son pays du reste du monde. Lui, l'avocat d'une ligne résolument isolationniste, a annoncé l'envoi de nouveaux soldats en Afghanistan. Preuve, écrit ce matin le site Politico, que le 45e président des États-Unis a dû se résigner à accepter la sombre réalité. Le bruit des bottes des GIs américains sur le sol afghan reste encore aujourd'hui un ingrédient indispensable pour empêcher un glissement chronique dans le chaos et la violence. En revanche, fait suffisamment rare celui-ci pour être signalé, Donald Trump a ouvertement reconnu qu'il avait fait volte-face sur ce dossier épineux. Mon instinct était de nous retirer et d'ordinaire je suis mon instinct, a-t-il lancé avant d'ajouter, mais après avoir étudié l'Afghanistan sous tous ses angles, j'en suis arrivé à la conclusion qu'un retrait créerait un vide qui profiterait aux terroristes. Les États-Unis vont donc poursuivre et même augmenter leur effort. Alors le président n'a souhaité donner aucun chiffre sur le niveau des troupes qui seront envoyées, ni même aucune échéance dans le temps, mais déjà de hauts responsables de la Maison-Blanche ont fait savoir que le président avait autorisé le Pentagone à déployer jusqu'à près de 4000 soldats supplémentaires, venant ainsi s'ajouter aux plus de 8000 militaires actuellement sur place. Pour autant, Donald Trump a aussitôt tenu à prévenir Kaboul que le soutien américain n'était pas illimité, rapporte The Washington Post. Notre engagement n'est pas un chèque en blanc, a-t-il martelé. Le chef de la Maison-Blanche a également lancé une vive mise en garde au Pakistan, accusé de servir de base arrière aux talibans, note toujours le quotidien américain. Et puis Donald Trump a par ailleurs laissé la porte ouverte à un dialogue avec certains rebelles. Après un effort militaire efficace, peut-être qu'il sera possible d'avoir une solution politique incluant une partie des talibans en Afghanistan, même si personne ne sait si ou quand cela arrivera. Enfin, le site de la chaîne CNN fait lui remarquer ce matin qu'avant d'évoquer l'Afghanistan, Donald Trump en a profité pour appeler les Américains à l'unité, une manière de réparer tant bien que mal les dégâts causés par sa réticence à condamner fermement les suprémacistes blancs après leur violente manifestation à Charlottesville. L'amour pour l'Amérique exige que l'on aime tous ses citoyens, a-t-il lancé, quand nous ouvrons nos cœurs. Il n'y a pas de place pour l'intolérance et aucune tolérance pour la haine.
Et à ce titre, d'ailleurs, Thomas, un site néo-nazi américain dont le fond fondateur s'est illustré pendant les émeutes de Charlottesville, a récemment trouvé refuge sur le Facebook russe.
Oui, c'est là le dernier exemple en date d'une tendance de plus en plus nette, nous apprend ce matin le quotidien de Lausanne Le Temps. Voilà déjà quelques mois, en effet, que le réseau social de Russie VKontakt, délibérément copié sur le modèle de Facebook et qui se classe tout de même au 5e rang mondial des sites les plus populaires au monde, attire un nombre croissant de sites et de propagandistes d'extrême droite. On y trouve notamment quantité de groupes néo-nazis allemands, français, britanniques et suisses. Alors en réalité, cette migration des extrémistes européens sur l'internet russe n'est pas nouvelle, mais elle s'est brusquement accélérée depuis le début de cette année, en particulier depuis que Facebook, Twitter ou Google, accusés d'avoir été transformés en caisse de résonance d'idéologies nauséabondes, ont pris des mesures drastiques pour dégonfler la bulle de haine formée sur internet. Et c'est ainsi, précise toujours le correspondant du journal à Moscou, que la Russie se présente donc à présent comme une alternative attrayante pour tous les prêcheurs de haine. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que Vladimir Poutine fait figure de héros global de l'ultra-conservatisme pour nombre de leaders d'opinion, qu'il s'agisse de Steve Bannon ou de Marine Le Pen. Et puis à travers diverses officines, le Kremlin tisse par ailleurs des liens étroits avec de nombreux groupuscules ou partis d'extrême droite dans le but d'affaiblir les partis traditionnels pro-européens. Enfin, la permissivité, voire la bienveillance des autorités russes envers ceux qui sont considérés comme des extrémistes en Europe contraste de manière saisissante avec la censure croissante imposée à l'internet russe. Des centaines d'internautes ont été condamnés par les autorités, certains même à des peines de prison ferme pour des publications jugées extrémistes alors qu'il s'agit pour l'essentiel de simples critiques envers la politique du Kremlin. De sorte, conclut l'article, que si cette politique de deux poids deux mesures perdure, elle pourrait rapidement ouvrir un nouveau front dans la guerre de l'information entre la Russie et les démocraties.
Et en attendant, c'est un autre front qui continue d'alimenter les pages des journaux, celui ouvert entre la Turquie et les Européens.
Oui, décidément, l'insolence d'Erdogan n'a plus de limites s'insurge d'Ashtandart après l'arrestation samedi en Espagne de l'écrivain d'origine turque Doğan Akçanlı sur demande express du président Erdogan. Alors bien sûr, sa libération sous condition 24 heures plus tard a vite fait de rassurer les commentateurs, mais attention, prévient toutefois son confrère Tages Zeitung, car il reste à espérer que la justice espagnole ne se laisse pas instrumentaliser. Elle dispose en effet à présent d'un délai de 40 jours pour se prononcer sur la demande d'extradition d'Ankara. Dans un entretien publié sur le site internet de l'hebdomadaire Der Spiegel, l'écrivain se dit lui toujours inquiet. « Je ne m'attendais pas à ce que le bras du gouvernement turc soit assez long pour aller jusqu'en Espagne. » D'autant que son cas renvoie à celui d'un autre journaliste turco-suédois, Hamza Yalçın, détenu en Espagne depuis le 3 août dernier à la demande d'Ankara. En d'autres termes, si jusqu'à présent le gouvernement turc s'était contenté d'incarcérer des Allemands et d'autres personnalités sur son territoire, à l'instar du journaliste français Lou Bureau, toujours maintenu en détention, désormais Erdogan étend ses arrestations à des pays tiers, note la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Voilà pourquoi, conclut la Berliner Zeitung, il convient de considérer et de traiter la Turquie comme ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire un état de non-droit. Enfin, à la une de la presse italienne ce matin, partout les mêmes images du séisme meurtrier sur l'île touristique d'Ischia, près de Naples, qui a fait au moins 2 morts et 25 blessés hier soir, un tremblement de terre qui intervient alors que l'Italie tout entière se prépare à commémorer après-demain le premier anniversaire du séisme qui avait fait près de 300 morts à Amatrice et dans les communes voisines dans le centre du pays.
Merci Thomas Cluzel, à demain, il est 7h30.